Shalom, bonjour tout le monde. Nous allons consacrer notre étude aujourd'hui à la fête de Yom Kippour et comprendre, essayer un peu de comprendre de quoi il en retourne. Alors vous savez de quoi ça a l'air dans la Torah, la fête de Kippour? On a parlé, je crois, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait le jour de Kippour, selon la Torah?
On jeûne.
On jeûne, ça c'est ce qu'on ne fait pas, on ne mange pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'actif le jour de Kippour? Prier, c'est pas écrit dans la Torah. C'est vrai que notre habitude, c'est de prier le jour de Kippour toute la journée. C'est vrai. Mais ce n'est pas ce que la Torah écrite, indique qu'il faut faire le jour de Kippour. Se mortifier, c'est quelque chose de passif. Ça veut dire ne pas manger, ne pas boire. Ça, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que l'on fait d'actif le jour de Kippour? Comment? On fait le korban. Il y a tout un service particulier de sacrifice dans le Beit HaMikdash, en plus des sacrifices habituels, n'est-ce pas? Ça, vous comprenez. Bon. Si vous voulez, il y a plusieurs événements qui sont très importants. Les événements les centraux, c'est l'histoire du bouc, dont nous avons parlé déjà récemment, n'est-ce pas? On prend deux boucs, et il y en a un qui est présenté sur l'autel, et un autre qui est envoyé à Azazel. Vous êtes d'accord? Très bien. Donc, il y a les deux boucs. Un qui est présenté et un qui est présenté en sacrifice dans le Beit HaMikdash et l'autre qui est envoyé à Azazel. Ça fait partie de leur vie. Il y a également autre chose qui se fait. Le sang de ce bouc, au lieu d'être, comme d'habitude, versé sur l'autel, une partie de ce sang est présentée également sur l'autel intérieur, c'est-à-dire là où il y a le Misbah HaKetoret, l'autel de l'encens. Et une partie du sang est également aspergée sur le rideau qui sépare le Kodesh du Kodesh HaKodashim. Et encore une autre partie est aspergée à l'emplacement des tables de la loi, enfin l'emplacement de l'arche d'alliance. Et en plus de cela, et également le sang du taureau du Kohen Gadol, qui est également amené, mélangé avec le sang du bouc. Et il y a également, on fait brûler de l'encens dans le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire le Kohen Gadol s'introduit à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, il jette de la poudre d'encens sur des braises enflammées, et alors la pièce se remplit de l'odeur du nuage créé par le Ketoret. Est-ce que, disons, physiquement, vous comprenez de quoi ça a l'air? Est-ce que quelqu'un parmi vous a un feutre? Il y en a un là derrière, un feutre? Ce serait utile. Attendez. Je voulais vous faire un dessin. Mais peut-être caché d'amour. Ceci est un tableau. Ceci
est le temple de Jérusalem, qui est formé de deux pièces. Une petite carrée qu'on appelle le Saint des Saints, en français, en hébreu, le Kodesh à Kodashim. Une qu'on appelle le Hechal, dans lequel il y a la menorah. Il y a la table, les pains d'assignation, les pains de proposition. Et il y a ici un petit autel qu'on appelle l'autel de l'encens. D'accord ? Il y a, à l'extérieur de tout ça, il y a un autel qu'on appelle l'autel extérieur. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle l'autel extérieur ? Parce qu'il est à l'extérieur. Tout ceci est entouré d'une enceinte, qui est l'enceinte du temple. Et qui aujourd'hui... Et en plus de ça, vous avez encore une autre enceinte qui est le mont du temple. Et là, vous avez à l'extérieur, si vous passez par les portes orientales, non occidentales, pardon, non orientales, vous tombez ici sur une vallée qu'on appelle la vallée du Kidron. Je parle ici du temple de Jérusalem. Vous tombez sur la vallée du Kidron. Et de l'autre côté de la vallée, il y a une montagne qu'on appelle le mont des Oliviers. Le mont des Olivier. Si vous vous placez là, sur la montagne, sur un point déterminé, et que vous regardez en ligne droite, vous passez à travers les portes et vous tombez sur le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire qu'il y a un point dans le Mont des Oliviers où l'on peut voir ce qui se passe à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Jusque-là, vous suivez ? Quand c'est ouvert, oui. Quand les portes sont ouvertes, on peut tout voir.
On pouvait le voir, on pouvait accéder au monde des Oliviers.
Bien sûr. On pouvait monter au monde des Oliviers. Dans cet endroit-là précis, c'est là qu'on faisait la cérémonie de la vache rousse. Vous avez entendu parler de la vache rousse ? La vache rousse était une vache que l'on brûlait de temps en temps, et dont la cendre servait à se purifier de l'impureté contractée au contact des morts. C'est-à-dire, si vous touchez un mort, vous devenez impur, et pour se purifier de cette impureté, il faut pour cela de l'eau dans laquelle on a mélangé de la cendre de la vache rousse qui a été brûlée en face du Kodesh HaKodashim sur le mont des Oliviers. D'accord ? Tout est clair ? Génial. Maintenant, le jour de Kippour, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe la chose suivante. On prend deux boucs, on les met là. C'est une représentation schématique des boucs. Ça n'a absolument... N'essayez pas de voir ici une précision esthétique, c'est absolument impossible, mais il s'agit ici d'une représentation schématique. Ce sont des boucs. Un des deux boucs va être sacrifié. Ses organes seront brûlés sur l'autel. Le sang sera aspergé, une partie sur l'autel, une partie sur l'autel intérieur, celui de l'encens, une partie sur le rideau du Kodesh HaKodashim, et une à l'emplacement de l'Arche d'Alliance. Ce sont les différentes aspersions du sang du bouc. Est-ce que là, vous voyez ? Très bien. Il y a à part ça un taureau. Ceci est une représentation schématique du taureau, qui est le taureau du Kohen Gadol, dont le sang sera présenté également. Les organes sur l'autel, le sang là, là, là et là. Jusque-là aussi ? Il y a un moment où on mélange, un moment où on ne mélange pas. T'as qu'à voir dans le rituel de prière de Kippour, tu verras dans la prière de Moussaf, tout ceci est bien écrit. Ainsi que dans la Mishnah, dans Maseret Yomah. Il y a également autre chose qui est faite, alors que tous les jours on présente de l'encens sur l'autel de l'encens, qui s'appelle l'autel de l'encens, pourquoi ? Parce qu'on y présente l'encens. Ce jour-là, le Kohen Gadol s'introduit dans le Kodesh HaKodashim et crée un nuage d'encens. Et il va jusque là, et là il fait le Ketoret. Suivez ? Le deuxième bouc
est emporté dans le désert, très loin, à 12 km du Beth-Amikdash, il est jeté brutalement dans un précipice où il s'écrabouille. Il n'arrive pas à la moitié de la montagne que déjà il est décomposé en ses organes. D'accord ? Et c'est ça qui fait l'expiation de tous les péchés des enfants d'Israël. C'est ça le service de Kippour, le jour de Kippour. D'accord ? C'est ça qu'on parle de la Torah. Aujourd'hui, tout cela n'est pas fait. On ne fait rien de tout cela, parce que nous n'avons pas le Beth Amikdash. Et c'est ça qu'on devrait faire, et c'est ça que nous attendons de faire un jour. Monsieur ? Bon. Alors, ce que j'aimerais comprendre, c'est une question. Ah, maintenant, petit détail important. Le Kohen Gadol, avant le jour de Kippour, est isolé pendant 7 jours. Il va habiter dans le Beth Amikdash pendant 7 jours. Il doit être loin du monde. Il se prépare à la cérémonie de Kippour. Il en est de même pour le Kohen qui brûle la vache rousse. La vache rousse ne se brûle pas le jour de Kippour. Mais quand on brûle une vache rousse sur le mont des Oliviers, on prend également un Kohen que l'on sépare pendant 7 jours. D'accord ? Est-ce que vous avez entendu parler d'une autre séparation de ce genre, de 7 jours ? Nous avons 2 exemples de cela dans la Torah. C'était lors de l'inauguration du Beth Amikdash au temps de Moshe, dans le Mishkan, le tabernacle du désert, Aaron et ses fils ont été séparés du reste du peuple pendant 7 jours. Il y a une autre séparation, c'est Moshe Rabbeinu, qui avant de monter sur le mont Sinaï, est resté enveloppé dans la nuée pendant 6 jours. Maintenant, la séparation du Kohen Gadol, elle est débattue dans la Gemara pour savoir est-ce qu'on l'apprend de la séparation de Aaron et de ses enfants pendant 7 jours, ou est-ce qu'on la déduit de la séparation de Moshe du reste du monde pendant 6 jours et on en rajoute un 7e. Tout est clair ? Bon. Alors maintenant, j'aimerais comprendre ce que ça veut dire toute cette histoire. Ça a l'air très bizarre. Quel est le lieu où se fait le culte du Seigneur dans le Beth Amikdash ? Pas du tout, pas dans Kodesh HaKodashim. Il se fait sur le Mizbéar, sur l'autel. C'est là. C'est-à-dire le lieu central du culte des Juifs, c'est là. Là où il y a l'autel. C'est bien fait. C'est là, par exemple, que notre ancêtre, Yitzhak, a failli être sacrifié. C'est là. D'accord ? Et il y a... en général, c'est la routine. Pour qu'il y ait une routine du culte qui fait que l'on fait le sacrifice là-bas. Simplement, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a dans la vie une accumulation de mal. Il y a des scories, des clipotes, on appelle ça en hébreu, c'est-à-dire des écorces, qui s'accumulent, qui fait que la vie devient de plus en plus lourde. Nous faisons des péchés, les péchés appesantissent. On devient moins libre. Alors, il faut parfois, pour se libérer des péchés, faire plus que d'habitude. Qu'est-ce qui fait que le péché peut nous atteindre ? C'est le fait que nous nous sommes éloignés de l'origine de la vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour réparer le péché ? Il faut revenir à l'origine. C'est pour ça que de temps en temps, on fait une petite excursion dans cette direction-là. Une fois par an, on déplace le lieu du culte et on le ramène à sa source. Vous avez compris ? Maintenant, je vous fais grâce de toute la liste des travaux qui se font le jour de Kippour. Il y a quelque chose comme 10 ou 20 de travaux particuliers du jour de Kippour. Il y a quand même quelque chose de très intéressant, c'est qu'on voit que, d'après la halakha, quand on commence un des travaux de Kippour, on ne le finit pas avant d'avoir commencé le deuxième et le troisième. Une fois qu'on a fait le troisième, on finit le premier, et on continue le deuxième, et après on finit le troisième, etc. Et les travaux sont faits de telle sorte que ce sont des travaux qui commencent ici et qui finissent là-bas. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une chaîne. On voudrait rattacher la vie de tous les jours, on veut la rattacher à son origine. C'est un peu comme dans le mikvé. N'est-ce pas? Le mikvé, vous savez qu'est-ce que c'est? On s'immerge dans de l'eau d'origine. C'est-à-dire de l'eau qui n'a pas été puisée. C'est-à-dire de l'eau dans laquelle la main humaine n'a pas eu de prise. Ça veut donc dire que quand j'entre dans le mikvé, c'est un peu comme si je revenais à mon état primordial avant ma naissance. Avant ma naissance, j'étais dans un liquide. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, je pense que vous aussi, n'est-ce pas? Vous étiez dans un liquide avant de naître, hein, dans le ventre de maman. Eh bien, c'était quelque chose comme ça d'indifférencié. C'était le bonheur total et absolu. Et bien, de temps en temps, il y a ce qu'on appelle la nostalgie de l'origine. Ça peut créer d'ailleurs des complexes d'Oedipe. C'est pour ça qu'il faut savoir s'en libérer. Mais il y a des moments, parfois, on revient à l'origine. D'accord? Évidemment, il faut souvent être évacué. Par exemple, si la maman est intelligente, elle dit « Mon fils, il est tard, tu dois rejoindre ta femme. » D'accord? Mais parfois, le fils dit à sa femme « Aujourd'hui, tu as cuisiné comme ma mère. » D'accord? Et donc, il y a ce besoin de ressources. Ça s'appelle le ressourcement. Est-ce que vous avez essayé parfois de rester dans un mikvé plus de 3 minutes dans l'eau? À l'intérieur de l'eau. Non, n'essayez pas. N'essayez pas. On peut parfois tenir 5 minutes sous l'eau, mais après, c'est fichu. D'accord? Alors, ce que je veux dire, c'est que si on fait le parallèle avec ce qui se passe dans le Kodesh HaKodashim, il y a un danger. C'est-à-dire, le fait que le Kohen Gadol s'introduise dans le Kodesh HaKodashim pour expier les péchés d'Israël, c'est-à-dire pour ramener l'ensemble de la communauté d'Israël à sa source, il y a un danger. Le danger, c'est que le Kohen Gadol, à force d'extase, n'ait plus envie de revenir. Alors, il faut pour cela l'enchaîner. Il y a une chaîne. Alors, d'après le Zohar, on attachait à la cheville du Kohen Gadol une corde. Une corde, une ficelle. Et cette ficelle, c'est un peu comme le thème du fil d'Ariane, vous savez, dans la mythologie grecque. Alors, derrière ça, il rentre à l'intérieur, mais on le rattache. Pourquoi est-ce qu'on le rattache? Hein? Alors, ce que tu as entendu, c'est que s'il mourait, on pouvait le tirer. C'est ça? N'importe quoi. En vérité, non, je sais que tout le monde dit ça, mais c'est pas vrai. La vraie raison, c'est pour qu'il n'oublie pas d'où il vient. Pour qu'il sache qu'il nous appartient. Disons comme ça, il peut disparaître. Disparaître existentiellement parlant. Je ne sais pas si vous avez vu le texte dans la Torah qui parle du service du Kohen Gadol, que nous lisons le jour de Kippour d'ailleurs, dans le livre de Vayikra, au chapitre 16. C'est quel paracha? Ben, c'est à Haremot, évidemment. Vous ne voulez pas participer pour que je dise tout moi-même. D'accord. Bon. Donc, dans la paracha de Haremot, il y a ici une description de ce qu'il faut faire. Vaïtaber Hashem el Moshe acharemot chene bene Aaron bekovatam ifne Hashem vayamutu. Dieu s'adressa à Moshe après la mort des deux fils d'Aaron lorsqu'ils s'étaient approchés de Dieu et qu'ils sont morts. De quoi s'agit-il? C'était lors de l'inauguration du Beit HaMikdash. Les deux fils de Aaron se sont introduits dans le Kodesh HaKodashim. Pourquoi faire? Le séduisant par extase. Et ils en sont morts. N'est-ce pas? Et c'est si vous voulez, cette mort est une mort extrêmement tentante. C'est la mort mystique. Il y a une sorte de délice, de fusion avec le divin, qui fait que l'on peut tomber amoureux de ce genre de mort. Et donc il y a un danger. C'est pour ça que la Torah dit, il faut que tu dises à Aaron, comment entrer dans le Kodesh HaKodashim sans danger. Vayomer Hashem el Moshe, et Dieu dit à Moshe, Daber el Aaron achicha, parle à Aaron ton frère. Ve'al yavo bechol et la kodesh, qu'il ne s'introduise pas à tout moment dans le lieu saint. Mi bet la parochet à l'intérieur du rideau. El pene a kaporet en face du couvercle, asher al Aaron qui est sur l'arche. Ve'lo yamut, qu'il ne meure pas. Ça veut dire qu'il y aurait une tentation de mourir. C'est une mort douce. Comme on dit en arabe, kill me softly. Ki be'anan, erae, alakaporet, car c'est dans une nuée que j'apparaîtrai au-dessus du couvercle. Bezot yavo Aaron. Alors là, je vous demande de faire attention. Est-ce qu'il n'y aurait pas un mot qui revient souvent dans le texte que je vais lire? Bezot yavo Aaron et la Kodesh. C'est ainsi que Aaron viendra dans le lieu saint. Befar ben Bakar avec un taureau, les Hatat, en tant que sacrifice expiatoire. Ve'ail les Ola, et avec un bélier comme holocauste. Ketonet Bat Kodesh Ilbash, il portera un vêtement blanc. Alors il y a toute une description ici des vêtements qu'il doit porter. Là je saute deux versets. Ve'ikriv Aharon, et alors Aharon présentera, et parachatat Asherlo, son taureau. Ve'chiper Ba'ado Ve'albeto, il fera l'expiation de lui et de sa famille. Après, Ve'lakar et Shnei Aseirim, il prendra les deux boucs. Il les mettra debout en présence de Dieu à l'entrée du lieu saint. Venatan Aharon, et Aharon mettra Alchene Aseherim de Goralot. Il fera un tirage au sort. Goral Echad Lachem, un pour Dieu, et Goral Echad Azazel, un autre pour Azazel. Veikriv Aharon et Asahir, et Aharon sacrifiera le bouc. Asher Allah, Allah va Goral Lachem, Asahur Hatat, sur lequel le sort a été tiré pour Dieu. Il en fera un sacrifice expiatoire. Vasahir Asher Allah, Allah va Goral Azazel, tandis que le bouc qui a été, dont le tirage au sort a donné Azazel, Ya'omad Hay Bifne Hashem, restera vivant devant Dieu, Vechaper Alav, pour expier, Veshalach Oto La Azazel Amidbara, pour l'envoyer à Azazel dans le désert. Veikriv Aharon et par Hatat Asherlo, et Aharon présentera le bœuf, enfin le taureau, Vechiper Ba'ado, etc. Vous avez remarqué qu'il y a un mot qui est revenu ou pas? Aaron, c'est-à-dire le nom d'Aaron est repris de manière presque permanente par le texte. Aaron fera ça, Aaron fera ça. Là, je continue. Velakar, et il prendra. Melo Amarta, une pleine pelle, Gahale Esh, de braise enflammée. Qu'est-ce qui manque? Aaron. Il prendra. Mais à la misbère, Milfne Hachem, de l'autel qui est devant Dieu, ou Melo Hofnav, qui est au Retsamim Daka, et à pleine main de la poudre d'encens fine, Vehevi, Mibet, la Parochet, il introduira tout cela derrière le rideau. C'est dans le Kodesh HaKodashim. Venatan et à Ketoret à la Esh, Milfne Hachem, il jettera la poudre sur le feu devant Dieu. Qui? Il n'y a pas écrit. Il y a écrit « il ». Dans la première partie du texte, la Torah répète tout le temps le nom d'Aaron. Quand elle parle de l'introduction au sein du Kodesh HaKodashim, elle ne dit pas son nom. Bizarre. Après, quand elle parle également de l'aspersion du sang, la même chose, etc., etc. Et là, j'arrive au verset le plus problématique, au verset 17. Vechol Adam lo yiyé be'ohel moed. Il n'y aura aucun homme dans la tente d'assignation, bevo'o lechaper bakodesh atzeto, lorsqu'il viendra expier dans le lieu saint jusqu'à ce qu'il sorte. Que dit la Torah? Que il n'y aura aucun homme dans la tente d'assignation lorsqu'il viendra. C'est une absurdité. On nous dit que quand il vient, il n'y a pas d'homme là-bas. Il y en a au moins un. Vous avez compris? Il y a au moins un homme. Aaron lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il entre dans l'origine de la vie, il disparaît en tant qu'individualité. Il n'existe plus. Donc il risque de rester coincé là-bas. C'est-à-dire, l'extase mystique, c'est plus que de la folie. C'est l'élimination pure et simple. Alors, si vous voulez, pour Aaron, c'est un plaisir immense. Il revient un peu à l'expérience de ses fils, qui eux aussi sont morts là-bas. D'accord? Mais il faut que Aaron domine cette tentation, Parce qu'on l'a envoyé là-bas, pas pour son plaisir personnel, on l'a envoyé là-bas pour revenir à notre vie. C'est-à-dire qu'il va à l'origine de la vie, mais c'est pour alimenter les vivants qui sont à l'extérieur. D'ailleurs, dans la description du culte de Yom Kippour, vous voyez par exemple dans la prière de Moussaf de Kippour, le moment le plus joyeux, ce n'est pas le moment où le grand prêtre rentre dans le Kodesh HaKodashim, mais c'est le moment où il en sort. C'est là qu'il y a des poésies synagogales, des piyutim extraordinaires, pleines de joie. Combien il était resplendissant, qu'il était beau à voir, le Kohen Gadol, lorsqu'il sortait du Kodesh HaKodashim. Et ce qu'on recherche, c'est l'illumination qu'il va nous amener de là-bas. Jusque là, vous comprenez? Bon. C'est d'ailleurs le même principe que dans la Teshuvah. La Teshuvah implique un certain repliement sur soi-même. Vous avez vu des gens faire Teshuvah? Parfois, ils ont l'air d'être en état catatonique. C'est-à-dire, le type, il est en train de réfléchir, « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Il est tellement recroquevillé sur sa personne qu'il devient de moins en moins vivant. Donc, la Teshuvah cause un dommage. Il y a un dommage consécutif inhérent à la Teshuvah. Il faut donc réparer ce dommage, parce que la raison pour laquelle on a le droit de rentrer dans cet état-là, c'est justement parce que de là, on va chercher des forces vitales qui vont après revivifier notre vie. Donc, si vous voulez, la Teshuvah, c'est un mouvement à deux vecteurs. On monte pour redescendre. On retourne à l'origine pour se vivifier. Contrairement au mysticisme. Dans le mysticisme, il y a une disparition de l'homme dans le néant. Par exemple, dans le bouddhisme, on trouve ça beaucoup. Une abolition du moi pour retrouver l'origine dans le néant. Or, la Torah nous dit « Achaim ve'amavet natati lefanecha » J'ai posé devant toi la vie et la mort. Et qu'est-ce que tu voudrais choisir si on te laissait faire? Eh bien, la mort, évidemment. Parce qu'il y a une nostalgie de l'âme pour son origine. Et la Torah innove. Ou bacharta bachaim. Mais il faut que tu choisisses la vie. Parce que le projet du Créateur, c'est justement de réussir la vie, pas la mort. La mort, c'est facile. Vous avez compris? Comme on a réussi à faire ça, oui, vous voulez quelque chose?
Je crois qu'on a trouvé une autre, je ne sais pas si c'est en même temps, mais l'histoire de sang qu'on verse.
Le sang, oui. C'est éclaboussant. Il n'y a qu'à voir, si tu rentres dans le Beth Amikdash, tu vois du sang partout. Sur l'autel, surtout.
D'accord. C'est quoi? Hein? C'est pourquoi on fait ça? Pourquoi il faisait ça?
Pourquoi est-ce qu'on faisait ça? Pourquoi est-ce qu'on le fera? Enfin, parce que c'est l'offrande de la vie. Le sang, c'est ce qui est le support de la vie.
Pourquoi ces quatre points, justement?
Bon, alors ça demanderait une étude très détaillée. Pourquoi ces quatre points, etc. Simplement, pour l'instant, j'ai donné une idée très générale, qui est qu'il y a, si tu veux, des stations en direction de l'origine. D'accord? C'est tout ce qui me nécessaire pour l'instant. Un jour, peut-être qu'on fera une étude sur les sacrifices en général, qu'est-ce que ça représente, pourquoi est-ce que ça se fait de cette manière, avec des éléments de barbarie. Il y a des éléments de barbarie. D'ailleurs, quand les profs de Kodesh, qui veulent enseigner les passages concernant les sacrifices, ils sont toujours très embêtés. Ils disent, comment est-ce qu'on va expliquer ça aux enfants? Or, la vérité, c'est que les profs de Kodesh se plantent complètement. Les enfants adorent ça. Parce qu'il y a une sorte de cruauté naturelle chez les enfants, qui disparaît chez les adultes, et qui fait que ça pose un problème. Mais si vous donnez à un gosse, d'aller voir par exemple une circoncision ou un abattage de poulet, ils se mettent aux premières places. Vous n'avez jamais vu ça, les gosses, là, il faut les écarter. Vous n'avez pas vu ça dans les circoncisions? Si, si, ils aiment voir ça. Absolument. Oui, oui. Oui, c'est comme ça. Enfin, dans la Guémara, on dit que on donne à jouer pour eux. À l'époque, il n'y avait pas tellement de joujoux comme aujourd'hui. Ce qu'on avait l'habitude de donner aux enfants pour jouer, c'était une tête de poulet. Alors, il y a un rabbin près de Jérusalem, à Mevasser Etzion, il a voulu vérifier si c'était vrai. Il a été à la boucherie, il a demandé une tête de poulet, il l'a donné à ses enfants. C'est devenu l'attraction du village. Tous les gosses sont venus pour voir ça. Par exemple, la crête, quand on la tire comme ça, quand on tire le cou et que ça ouvre le bec, et les yeux qu'on fait sortir et tout ça, et puis les poils qu'on sort, et les petits morceaux, les petits os, etc. D'accord ? C'est-à-dire que l'enfant a une acceptation naturelle du sacrifice. Il y a quelqu'un d'autre qui comprend très bien le sacrifice, c'est le prophète. Les prophètes ont une vision très noble, très éthérée du sacrifice. C'est-à-dire qu'entre les deux extrémités, entre l'enfant et le prophète, il y a l'intellectuel. L'intellectuel a une difficulté. Parce que dans l'intellectuel, il y a une épuration des forces naturelles. Ça veut donc dire que pour pouvoir appréhender ce que représentent les sacrifices, il faut réaliser une synthèse réussie entre l'enfance et l'intellect. Alors ça peut nous amener peut-être un jour à devenir prophète. T'as compris ce que je dis ? J'ai pas résolu ta difficulté, simplement je t'ai donné le point de départ. Un jour, on étudiera un peu plus profondément ce que ça veut dire, on comprendra. Oui ? Amen.
Aaron, il a fait des travaux dans le Royaume Moyen.
Il va jusqu'au Kodesh HaKodashim.
Mais pour le premier temps, il était.
C'est la preuve. C'est dans le tabernacle.
Non, c'est là. C'est quoi qu'il n'y avait pas le premier temps ?
C'est dans le tabernacle.
Voilà.
Le Mishkan.
Alors, c'était
la même forme.
Sous forme de tente,
il y avait une sorte de grande tente, voilà. Une très grande tente, qui était le Beth Amikdash ambulant de l'époque, démontable et portable. D'accord ? On le démontait, on le remontait à chaque station. D'accord ? Maintenant, une fois qu'on a réussi ça, qu'on a réussi à s'introduire dans les profondeurs de l'origine, alors on est capable de régler tous les problèmes de l'extérieur le plus extérieur. Parce qu'en dehors du Beth Amikdash, il y a des lieux problématiques. Le Beth Amikdash, c'est le lieu de la vie. Mais en dehors du Beth Amikdash, il y a l'empire de la mort. N'est-ce pas ? La force, la plus grande force que nous connaissons, nous autres, les êtres vivants, les êtres humains, c'est la mort. Ça. Il y a une impureté qui est consécutive à la mort, parce que la mort est le fruit d'un péché. Si tout s'était bien passé dans le Gan Eden, on ne serait pas mort. Ça. Et donc, une fois qu'on est revenu à la source de la vie, on est capable, face à cet endroit-là, de faire la cérémonie de la vache rousse, qui est dans le lieu de la nature. Là, c'est la nature. Là, c'est la sainteté, là, c'est la nature. Et dans la nature, il faut régler le problème de la mort par les cendres de la vache rousse. Si vous voulez, un jour, on étudiera également comment ça marche. Mais, en plus de la nature, quelque chose de plus grave, parce que la nature, c'est encore de la nature. Il y a les forces du mal. Les forces du mal, elles viennent du lieu où l'homme n'a pas de prise. L'homme est un être moral, tandis que le mal, c'est l'emprise des forces barbares, sauvages de la nature sur l'être humain. Où est-ce qu'elles sont ces forces sauvages ? Eh bien, elles sont dans le désert. Dans le désert, dans un lieu déchiqueté et sauvage, c'est là qu'on règle le problème du mal le jour de Kippour. Comment est-ce qu'on règle le problème du mal ? Eh bien, du même lieu où on est parti en direction de l'origine de la vie, de ce même lieu, on va pour alimenter, Azazel, les forces du mal. Bizarre ça, alimenter les forces du mal. Vous acceptez ça,
quoi ? Pourquoi alimenter ?
Pourquoi alimenter ? On devrait les détruire, au contraire. On devrait aller verser du béton sur le précipice d'Azazel et mettre là-bas de l'asphalte et civiliser l'endroit. C'est ça qu'on devrait faire. Et au lieu de faire ça, on prend un bouc, on le jette à Azazel, on dit tiens, prends, c'est pour toi. Une fois par an, tu as bien le droit de manger un peu. Vous trouvez ça normal, hein ? À part ça, ça pose un autre problème. Le problème, c'est que ça sonne dualiste à bloc. Hein ? Ça sonne fort, ça sent fort le dualisme, cette histoire-là. Un bouc pour Hachem, un pour Azazel. Vous acceptez, vous, ça ? Vous n'êtes pas monothéiste sur les bords ? Le judaïsme, il est monothéiste, vous savez ? Vous savez que le judaïsme est monothéiste ? Oui ? Alors, si le judaïsme est monothéiste, comment est-ce qu'il accepte que d'une part on fasse un sacrifice à Dieu, et à part ça on envoie un bouc à Azazel ? C'est intolérable. Et encore ça, le jour de Kippour, qui est le jour le plus saint du calendrier, selon certains juifs. Ah bon, non, le bouc qu'on donne à Dieu, on le fait sur l'autel, là.
Oui, ouais. Je veux dire, sur l'autel.
Oui, ça, oui.
On envoie un autre.
À Azazel.
Parce que c'est Dieu qui nous l'a demandé.
Ah, très bonne réponse. C'est Dieu qui nous a dit d'alimenter Azazel. Parce que si Dieu ne nous avait pas ordonné d'alimenter Azazel, alors là, ça poserait un problème. On se demanderait, mais d'où est-ce qu'Azazel tire sa force ? D'où est-ce que les forces du mal tirent leur force? On pourrait donc là vraiment s'imaginer qu'il y a un Satan qui est opposé à Dieu. Par exemple, comme dans la mythologie chrétienne, dans le christianisme, c'est très fort. Il y a ce qui appartient à Dieu et ce qui appartient au Satan. Tandis que dans la tradition juive, c'est le contraire. Il n'y a pas de Satan, puisque les forces du mal sont alimentées sur l'ordre de Dieu par nous le jour de Kippour. Donc c'est l'abolition de son empire. Si vous voulez, donc cette cérémonie d'envoyer un bouc à Azazel, c'est la cérémonie monothéiste au possible. Vous avez compris? Parce que quand j'alimente mon ennemi, j'ai un ennemi, et que je l'alimente, il tire sa force de moi, donc il ne peut rien me faire. C'est écrit dans le livre de Michelet, le livre des Proverbes, « Imra'ev sona'acha a'achileu lechem » Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain. Ve'im tsame ashkeumai, mais s'il a soif, abreuve le dos. Ki gehali mata chote al rocho, parce que c'est comme si tu remuais des braises sur sa tête. C'est dur, hein? Bon, eh bien, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, on prend la conscience à ce moment-là, qu'il y a un seul Dieu qui est l'origine de la vitalité du bien et du mal. D'accord ? Et c'est ce qui permet donc de faire l'expiation de tous les péchés. Mais ça, on est capable de le comprendre que si on est arrivé à une des extrémités du monde, c'est-à-dire le Kodesh HaKodashim, on va à l'autre extrémité du monde, à Azazel. Maintenant, il y a un problème pédagogique. Est-ce que c'est pédagogiquement faisable d'alimenter Azazel comme ça en public ? Ça se fait pas. Hein ? Ça se fait dans le désert. Et non, justement pas. Ça se fait très loin. Ça se fait loin dans un lieu où personne ne le voit. C'est une opération délicate. Alors on ferme les portes et l'opération chirurgicale est faite par un homme qui va très loin. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est comment ? Il y a un type, il y a quelqu'un qui est préparé à l'avance, Ishaïti, un homme, disons, préposé à l'avance. Il prend avec lui le bouc dans le désert. Il marche 12 kilomètres le jour du Kippour, l'après-midi, sous le soleil, dans le désert. Maintenant, si le bouc est fatigué et qu'il ne veut pas marcher, il le prend sur ses épaules. Il se ramène avec un bouc. D'accord ? C'est absolument vrai. Maintenant, il y a, entre le Beth Amikdash et le lieu en question, 12 kilomètres à peu près, 12-16 kilomètres, c'est pas très clair. Enfin, il y a des discussions entre des chercheurs pour savoir exactement où était cet endroit où on jetait le bouc. D'ailleurs, on a retrouvé à côté d'un précipice dans la région de Michmash, on a retrouvé des escaliers taillés dans la roche qui arrivent jusqu'à un précipice. Pourquoi tailler des escaliers dans la roche pour arriver à un précipice? C'est donc probablement cet endroit-là. Et donc, mais il y avait entre le Beth Amikdash et cet endroit-là, il y avait des cabanes, des soukottes. Chaque kilomètre à peu près, il y avait une souka, avec de quoi manger, de quoi boire. Pour le type qui prenait le bouc, s'il avait soif ou s'il avait faim, il avait le droit de manger. C'est Kippour, il avait le droit de manger. La Guémara nous dit que ça n'est jamais arrivé qu'il ait eu besoin. Mais, en cas de nécessité, on va aller préparer ça pour lui. Il y avait autre chose qu'on faisait là-bas, il y avait des drapeaux. Dans chaque souka, il y avait un drapeau. Comment ? Oui, comme Tour de France. Et quand le bouc était jeté dans le précipice, dans la cabane qui était proche de l'endroit, la dernière cabane, on levait le drapeau qui était aperçu par la cabane d'après. Là-bas aussi, ils levaient le drapeau. Et comme ça arrivait jusqu'au Beth Amikdash. On savait que la cérémonie avait été faite. Et alors, on pouvait continuer le service du temple. Mais la Guémara dit, on n'a pas le temps de venir de Azazel jusqu'au Beth Amikdash, ou du Beth Amikdash jusqu'à Azazel pour voir le même jour les deux cérémonies. C'est-à-dire, je ne peux pas être simultanément dans le Beth Amikdash et dans le lieu d'Azazel. C'est absolument impossible parce que, psychologiquement parlant, c'est pas vivable de voir à la fois le bien et le mal le même jour. Simplement, ceux qui ont des hélicoptères, ce jour-là, peuvent voir. D'accord ? Probablement qu'un jour, avec nos satellites, on pourra filmer simultanément ce qui se passe dans le Beth Amikdash et à Azazel le jour de Kippour. D'accord ?
Et si en jetant le bout, il se prend dans une branche ?
Dans une branche ? Il n'y a pas de branche.
S'il meurt pas.
Ben, comment ça, il meurt pas ? Tu ne te rends pas compte que c'est un précipice. Attention au précipice.
Il n'y avait pas une histoire de rocher.
Hein ?
Quoi de rocher ?
C'est possible, ouais. Possible. Il y a peut-être un rocher tout près, là, comme ça. Ah. D'accord. Ouais, ça dépend quel rocher. Mais par exemple, il y a des rochers, tu sais, un peu, disons, ronds en bas et pointus vers le haut, comme ça. Et le type, il avait la forme, en général, il portait ça comme ça. N'est-ce pas ? Et il se promenait pour aller faire la chasse au sanglier. D'accord ? Ça, c'est une possibilité, effectivement. Le dernier Goscinny, effectivement. C'est très important pour avoir de la culture. Bon, maintenant, donc dans cette histoire, il y a ici une unité qui se crée entre le bien et le mal. Maintenant, ça veut dire quoi, cette histoire d'alimenter Azazel ? Dans la vie de chacun de nous, il y a également une alimentation d'Azazel. Il y a une parcelle de vitalité que l'on donne au Yetzer Hara. Vous savez qu'il est très dangereux de tenter la pureté absolue. C'est très dangereux. Il y a des cas comme ça. Les gens essayent d'être entièrement purs, et c'est là que le Yetzer Hara a une emprise. C'est pour ça qu'il faut également donner sa part au Yetzer Hara. C'est une des raisons pour lesquelles il faut bien manger le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, le Yetzer Hara est sanctifié. Parce que manger beaucoup, c'est pas très noble. C'est pas interdit, mais c'est pas très noble. Mais le jour du Shabbat, c'est une mitzvah. C'est un peu comme si on alimentait Azazel. T'as compris le principe ? Il y avait dans la Bible un personnage du nom de Yov, en français, Job. Le Job en question était un homme saint, juste, c'était un vrai tzaddik. C'était un tzaddik qui a été atteint par les pires calamités du monde. Le Satan, en personne, s'est attaqué à lui, avec l'autorisation de Dieu. Vous connaissez l'histoire dans Job, n'est-ce pas ? C'est une histoire absolument terrible, c'est un homme juste, à qui il arrive toutes les tuiles du monde, alors qu'il est parfaitement juste. Bon, alors, il y a là-bas tout un débat de 40 chapitres pour discuter du problème du mal. C'est ça le livre de Job. C'est une discussion très serrée sur le problème du mal. Comment ? Non, c'est Moshe qui a écrit ce livre, d'après la tradition. C'est un débat entre lui et ses copains. D'accord ? Il est dans la souffrance et ses amis viennent et discutent avec lui du problème du mal. Et une des clés pour comprendre, bon, vous savez que les commentateurs ont beaucoup travaillé sur le livre de Job. Il y a une remarque que font les kabbalistes à propos de Yov. Il est dit là-bas que chaque semaine, Yov faisait des sacrifices pour expier les péchés que ses enfants auraient pu faire en pensée. Les péchés que ses enfants auraient pu faire en pensée. Ils auraient eu des mauvaises pensées. Et donc, Yov, pour expier les péchés éventuels de ses enfants, faisait des sacrifices en leur nom. Les sacrifices qu'il amenait, c'était tous des holot. C'est quoi le hola ? L'holocauste. C'est quoi un holocauste ? Exactement. C'est-à-dire, on brûle la bête tout entière. C'est quoi le contraire de l'holocauste ? Le shlamim. C'est quoi un shlamim ? C'est une bête où une très petite partie est présentée sur l'autel, c'est-à-dire le sang et les graisses interdites, et le reste est mangé par la personne qui amène le sacrifice. C'est-à-dire, c'est comme si je voulais faire un barbecue. Alors, si déjà je fais un barbecue, je présente les parties qui sont interdites de toute façon, je les présente en sacrifice, et donc je mange à satiété. D'accord ? Et les kabbalistes ont remarqué que comme Iov n'avait pas présenté de shlamim, alors le Satan l'a mis en accusation. C'est-à-dire qu'il n'avait pas laissé de place à son Yetzerara. Et donc, il y a toujours ce danger, quand on essaie la pureté absolue, on risque de tomber. Maintenant, je reviens au problème de la tentation du Kohen Gadol. Vous savez que le Kohen Gadol, il a une tentation, il peut rester coincé là-bas. Pourquoi est-ce qu'il veut rester coincé là-bas ? Ben, il veut imiter ce qu'ont fait Nadab et Abihu, n'est-ce pas, les fils de Aaron qui sont entrés dans le Kodesh HaKodashim, qui ne sont pas ressortis. Ça s'est passé quel jour, ça ? Non. Ça s'est passé le jour de Rosh Chodesh Nissan, mais c'était quel jour ? Le premier, le deuxième ? C'était le huitième. Vous avez encore dans la Torah, il est écrit Vayehi Bayom Hashemini, ce fut le huitième jour qu'il y a eu l'inauguration du temple, et ce jour-là, Nadab et Abihu ont brûlé. Et c'est quoi le huitième jour ? Ben, c'est le jour qui vient après les sept jours. D'accord ? Vous avez donc sept jours, et si vous en rajoutez un, ça fait. 8. Comment ? Ben justement, ça va d'abord, c'est quoi les 7 jours ? Les 7 jours, c'est les jours de la création du monde. Le monde a été créé selon un ordre qu'on appelle les 7 jours. Et pendant ces 7 jours, c'est là que se joue l'histoire. Quand on est dans le 8e jour, c'est qu'on a déjà fini l'histoire. Dans le Beth Amikdash, il y a une anticipation de l'avenir. C'est-à-dire, dans le Beth Amikdash, ce qui se passe là-bas, ça ne relève pas de l'histoire, ça relève du huitième jour. Et donc, la Torah, elle a été donnée pour quand ? Pour les sept jours ou pour le huitième ?
Pour le huitième, pour les tous.
Pour les sept jours. La Torah, elle nous est donnée pour l'histoire. Après l'histoire, c'est déjà un autre monde. Donc, le Kohen Agadol, il est prêt à écouter Moshe pendant sept jours, mais le huitième jour, il n'en fait qu'à sa tête. Alors, il y avait quelque chose que les Chachamim faisaient avant que le Kohen Gadol commence le service de Yom Kippour. On le faisait jurer de ne pas transgresser les instructions qu'on lui avait données. Comment on dit en hébreu faire jurer ? Léashbia. Léashbia, qui veut dire faire jurer, c'est quelle racine ? Sheva, sept. C'est-à-dire, tu vas rentrer dans le huitième jour, mais n'oublie pas que tu appartiens aux sept jours. C'est-à-dire, on l'enchaîne aux sept jours. Alors, regardez maintenant dans le texte de la Guémara que vous avez dans les yeux. C'est un texte qui est tiré de Maseret Yoma à la page d'Alet Amoud Aleph, 4a. Regardez, vous voyez, il y a ici une sorte de ligne grise, là, comme ça. Alors, la ligne qui est au-dessus de cette ligne, là, écrit comme ça, Aharon Piresh, vous avez vu ? Aharon Piresh Shiv'a Veshimesh Yomechad. Aaron s'est séparé du monde pendant sept jours et a œuvré pendant un jour. Ou Moshe Masarlo Kol Shiva Kedelechanro Ba'avoda. Et Moshe lui a enseigné tous les sept jours ce qui était nécessaire pour l'inauguration du culte. Ve'af le Dorot, il en est de même pour les générations à venir. Kohen Gadol, le grand prêtre, Poresh Shiva, se sépare pendant sept jours. Ou Meshamesh Yom Echad, et fait le culte pendant un jour, le jour de Kippour. Ou Shnei Talmidei Chachamim et deux sages, Mitalmidav Shel Moshe, qui sont des élèves de Moshe, les Apukei Tzedukin, à l'exclusion des Sadducéens, qui n'acceptent pas la tradition orale, Mosrin Lo Kol Shiva, l'enseigne pendant sept jours, Kedei Lechanro Ba'avoda, pour l'habituer au culte, Mikan Amru, c'est de là qu'on a tiré l'enseignement, Shivat Yamim Kodem Yom Kippourim, que pendant sept jours avant Kippour, le jour de l'expiation, Mafrishin Kohen Gadol Mibeto, on sépare le grand prêtre de sa maison, l'Elishkat Parhedrin, pour le mettre dans la loge des Parhedrin, peu importe ce que ça veut dire. Urshem chez Mafrishin Kohen Gadol, et de même qu'on sépare le grand prêtre, car Mafrishin, de même on fait séparer, Kohen Asoref et Apara, le prêtre qui va brûler la vache rousse. La Lishka Shalpene Abira, dans la loge qui est face à la bâtisse Tsafona Mizraha, au nord-est, etc. Donc, vous voyez donc qu'il y a ici un parallèle qui fait entre trois événements. D'une part, l'événement de l'inauguration du Mishkan du temps de Moshe et Aaron, la séparation du Kohen Gadol avant Kippour et la séparation du Kohen avant de brûler la vache rousse. Il y a également une autre comparaison qui est amenée par la suite, c'est quand Moshe se prépare à recevoir la Torah, il se sépare pendant 7 jours pour récapituler donc l'histoire du monde avant d'accéder à un niveau supérieur. Vous avez compris ? Bien, puisque vous avez compris, je trouve que vous êtes géniaux et je vous remercie de votre attention soutenue. Shalom.